gosta.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, je dirais même plus, comme les Dupont, bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci de vous réveiller avec un autre jour est possible. Nous sommes le mardi 9 février. Depuis hier, nous diffusons à 20h30 notre feuilleton Les Cigares du Pharaon, une nouvelle adaptation des aventures de Tintin. Et depuis hier, dans un autre jour est possible, Renaud Nathiez, notre tête chercheuse, nous explique le mystère Tintin et surtout les raisons de son succès universel. Tintin, encore et toujours, deuxième partie dans un instant. Et puis en deuxième partie de l'émission, je reçois l'homme qui a inventé et théorisé sur la ligne claire d'Hergé.
Ce matin, avons retrouvé un sarcophage et son occupant. Il s'appelait Philémon Cyclone. Stop. Impossible poursuivre recherche. Mère trop mauvaise. Stop. Dès que tu auras la réponse, viens me la porter. Je retourne sur la passerelle.
Ok, capitaine.
Fichu temps. Et le baromètre qui descend encore. Ça nous promet un sérieux coup de tabac.
Et si la réponse, chef?
Faites prisonnier homme repêché. Stop. Si impossible retrouver deux autres caisses, abandonnées. Stop. Rendez-vous au centre 3. Bon, j'aime autant ça. Alors en route pour les Indes.
Tintin, encore et toujours, par Renaud Nathiez. Deuxième épisode aujourd'hui. Personne n'est Tintin et tout le monde l'est en même temps. Bonjour Renaud Nathiez.
Bonjour.
Dernier ouvrage paru, Le mystère Tintin, les raisons d'un succès universel. Et donc aujourd'hui, on va parler du personnage de Tintin ou comment on peut s'identifier à Tintin, tout en sachant que c'est un personnage de fiction.
Je crois qu'il y a une différence essentielle entre Tintin et son entourage. C'est-à-dire que Tintin est un personnage absolument indéterminé. Il n'a pas de famille, il n'a pas d'enfants, il n'a pas, dans les premiers, y compris Le Cigare du Pharaon et Lotus Bleu, il n'a pas de domicile connu. Hein, il est sans domicile fixe, Tintin. Hein, on le voit à son domicile la première fois dans L'Oreille Cassée, hein, rue du Labrador. Au niveau sexuel, on l'a assez dit. Il y a absolument, c'est pas qu'il a pas de, c'est pas que comme on a voulu délirer qu'il soit homosexuel ou peu importe. C'est qu'il y a pas de description de la sexualité de Tintin. Certains ont dit qu'on n'était même pas sûr que ça soit un homme ou une femme. Bon, c'est faux puisqu'on en parle au masculin. Visiblement, c'est un garçon.
Mais vous lui donnez quel âge, Renaud Nathiez?
Alors ça, c'est intéressant parce que l'âge de Tintin est très très difficile à déterminer. On a souvent considéré que c'était un adolescent, alors qu'en réalité, ses capacités physiques, son intelligence, sa culture sont bien au-dessus, je crois, de l'âge de l'adolescence. C'est quelqu'un qui, moi, que je suis difficile à déterminer, mais que je situerais plutôt autour de 22 ans, par exemple, ce qui était un petit peu l'âge que devait avoir Jean-Pierre Talbot quand on l'avait pris pour jouer Tintin dans Les Oranges Bleues.
Et puis surtout, c'était l'âge d'Hergé quand il commence l'aventure de Tintin.
Ah ben voilà, on verra. C'est... Effectivement, oui. On pourrait dire qu'il y a, un vieillissement du caractère des personnages. Tintin s'embourgeoise indéniablement, il ne veut plus voyager à la fin, hein. Il ne veut plus partir, il faut le forcer. Il n'y aurait que Tintin, à la fin, il n'y aurait plus d'histoire hein, dans les Picaros, il ne veut plus s'en aller. Hein. Mais physiquement, non, physiquement, il reste le même, ses traits sont identiques. Je dirais que le plus paradoxal, c'est Milou. Milou, il doit vivre donc de 29 à 76, ça fait 47 ans. Un chien qui vit 47 ans, il n'a pas une ride et il ne bouge pas.
Alors comment tout le monde peut s'identifier à Tintin tout en sachant que c'est un personnage en papier?
Mais je crois justement que cette indétermination dont on parlait permet à beaucoup de gens très très différents de s'y identifier. Hein. On avait repris l'image du pertuis de foire, vous savez, ce trou où on met la tête comme ça pour apparaître au milieu d'un décor de western ou bien de conte de fées. Hein. Et ben, c'est un peu ça, Tintin. Il a le visage tellement lisse que chacun peut un petit peu se croire Tintin. Tout est possible, tout est permis. Alors que les traits d'un haddock ou d'un tournesol sont quand même beaucoup plus précis. Tout le monde ne peut pas prétendre être le professeur Tournesol.
L'ouverture au monde, le désir de faire partager les valeurs du monde occidental, les bonnes valeurs bien sûr, hein, à tout le monde. Est-ce que c'est aussi le défi d'une époque de l'Europe d'après-guerre ?
Oui, Hergé avait une mission au départ, hein. Il écrivait dans un journal très très situé, je dirais, idéologiquement et politiquement, catholique, marqué à droite, et il avait effectivement une mission un petit peu civilisatrice, ou il avait ce que Hergé d'ailleurs appelait l'idéologie Boy Scout. Quand on lui demandait toujours est-ce que vous êtes de droite, de gauche, il répondait toujours moi Tintin, il veut le bien, il défend le faible contre le fort, les opprimés, les petits contre les grands. C'est pour ça que De Gaulle d'ailleurs a utilisé un petit peu l'image de Tintin. Tintin a dit moi je suis comme Tintin, moi je suis le petit qui se bat contre les grands, qui résiste aux États-Unis par exemple. Mm-hmm. C'était cette image-là.
De non-alignement du coup entre les deux puissances dans un monde qui était bipolaire à l'époque de Tintin.
Absolument, et bon, il y a eu une évolution quand même, hein, je veux dire, entre l'antisoviétisme vraiment primaire ouais. des soviets, et puis les prises de position pro-chinoises dans le Lotus Bleu, plutôt humaniste dans les derniers Tintins qui se passent en Amérique latine. Tintin, moi le débat sur le racisme de Tintin, il me paraît sans grand intérêt, parce que Tintin, vous ne trouverez pas dans Tintin un seul propos raciste. Il a toujours défendu le petit marchand d'orange indien contre les blancs, hein, Zorino, le petit tireur de pousse-pousse du Lotus Bleu contre un Américain. Et il y a pas Milou est raciste à une ou deux reprises, hein, dans Tintin au Congo. Il dit quand il soulève la locomotive, là il dit tête fainéant. Mais Tintin absolument jamais. Puis vous avez dans les bijoux de la Castafiore, le fameux exemple des Romanichel. Contre tout le monde, Tintin, dès le début, pense que les Romanichel ne sont pas coupables du vol de l'émeraude de la Castafiore, comme Haddock d'ailleurs.
Mmh. Ce qui nous vaut d'ailleurs la fameuse réplique des Dupont, pour une fois qu'on tenait les coupables,
exactement,
ils s'arrangent pour être innocents.
Exactement.
Ouais. Qu'on a beaucoup ressorti d'ailleurs, justement, ces dernières années, quand on parlait des gens du voyage.
Absolument. Tintin est plus progressiste que Manuel Valls sur ce plan, hein, je pense. Mais sur cette affaire des Romanichel, vous avez non seulement les Dupont, vous avez le gendarme de Moulinsart, tous les gens qui disent mais comment vous voulez accueillir ces gens-là chez vous, ils vont vous attirer les pires ennuis. Et puis Nestor surtout, hein, Nestor, alors lui il est très très très, il avait déjà tenu lui des propos extrêmement racistes par rapport
quand il était au service des frères Loiseau, ouais.
Oui, puis dans Kokanstok, quand le château est envahi, vous savez, par la famille d'Abdallah,
qui dresse la tente au beau milieu de ce beau salon.
Exactement. Ouais. Mais ça n'est pas Hergé, ça. Ce sont des personnages qui sont critiqués par l'auteur, là.
Alors, justement, Hergé, on parle de Tintin et de comment on peut s'identifier à Tintin et du personnage principal, mais il est entouré d'un capitaine alcoolique, d'un savant un peu tête en l'air, tous les personnages qui gravitent autour de Tintin, même s'ils ont les pires défauts, les pires vices, sont quand même sympathiques.
Les proches, les amis de le cercle rapproché sont sympathiques. Oui, ils sont sympathiques avec des défauts. Alors, je dirais qu'ils ressemblent à des voisins. Hein. Tintin n'est pas humain par rapport à eux. Hein. Et Hergé le disait, il disait mais Tintin, il m'énerve, il est trop parfait. Hein. Ça l'agaçait. Hein. Et il était. C'est vrai qu'on a tendance à avoir, en général, quand vous posez la question aux gens, quel est votre personnage préféré dans Tintin, Tintin n'arrive pas du tout en tête. Y compris chez les enfants et chez les jeunes. Le plus populaire, c'est Haddock, Milou, le Tournesol, la Castafiore. Les Dupont peuvent amuser, mais Tintin, non, ça n'est pas le plus...
Et comment vous l'expliquez, Renaud Lathiez ?
Je crois par ce fait que, justement, Tintin a une espèce de... Il a poussé son boy scoutisme à l'extrême. Il a une espèce de perfection qui n'est pas de ce monde. Il n'est pas très rigolo, Tintin. Hein, c'est pas... Vous préféreriez passer une soirée avec Haddock, je pense, que... ou même à la limite avec Séraphin Lampion, qu'avec Tintin. Hein, c'est quand même l'esprit de sérieux, comme disait Sartre, hein, Tintin. C'est quand même quelqu'un qui... qui a sa mission, hein, la quête du bien. Son but unique, une fois que le reportage n'est plus la raison obligée des albums, bon, bah, c'est de résoudre une énigme, c'est de délivrer ses proches, et c'est d'aboutir à une espèce de quête du Graal, hein, en faisant triompher le bien sur le mal, et en éliminant les bandits, hein, en éliminant les mauvais. Hein. Alors que, bon... Haddock, c'est quand même un bon vivant, Haddock. Hein. Mais il est à la fois généreux, colérique, il aime bien boire, il aime bien le tabac, il aime bien... Si on parlait de Brassens tout à l'heure, moi je vois beaucoup d'analogies entre Haddock et Brassens. Vous avez remarqué la moustache et la barbe, l'amour de la pipe, l'amour des copains, l'amour de la mer et des marins, les jurons. Les jurons, hein, ça c'est le morceau
mille,
de bravo.
Milliards de mille sabords, j'avais oublié ça, les jurons.
Ouais. Jurons. Et ouais. Les jurons qui ont été chantés aussi par Brassens.
Alors que s'il fallait trouver un frère du monde réel à Tintin, ça va être difficile. Hein. D'ailleurs, ça a toujours été difficile de trouver quelqu'un pour incarner Tintin, que ce soit au cinéma,
à mon avis, impossible.
À la radio, vous allez voir, c'est pas mal. Oui, je ne sais pas si vous avez écouté le feuilleton, c'est vraiment pas mal. Mais...
Oui, c'est bien, j'en doute pas. Mais pour moi, essayer de faire un Tintin, faire passer Tintin et ses amis au cinéma, c'est une gageure vraiment impossible. Le faire jouer par des personnages, par des acteurs, à cause des problèmes d'âge dont on avait déjà parlé, c'est quasiment impossible. Quelle que soit la qualité des acteurs, c'est pas le cas, c'est pas le problème. Hein. George Wilson qui jouait Haddock ou Jean Bouise étaient de bons acteurs. Mais c'est trop différent de la bande dessinée. Ils ne parlent pas comme on se l'imagine en lisant les albums.
Donc c'est la voix qui pose problème, parce qu'il y a eu des films d'animation où le trait était plutôt réussi. Hein.
Oui, un dessin animé, c'est ce qui se rapprocherait le plus. Mmh. Hein. Mais la voix pose problème. Et puis... par exemple, Spielberg, à mon avis, n'arrive pas à rendre le côté multidimensionnel de Tintin. C'est que de l'action, quasiment. C'est que de l'action, le film de Spielberg. On n'a plus les côtés oniriques, tous les autres niveaux. Non, à mon avis, c'est très, très, très difficile de transposer Tintin au cinéma, c'est autre chose. Quoi.
Demain, vous nous direz, Renaud Natiez, si vous préférez Tintin ou ses amis, ou même ses ennemis, parmi toute la galaxie et de personnages imaginés par Hergé autour de ce jeune héros à la houppette. À demain, Renaud Natiez.
À demain.
Hergé au micro de Jacques Chancel, Radioscopie, 1979.
Puis l'astuce suprême, que j'appellerais même coquetterie,
oui.
C'est d'avoir donné à Tintin un âge, 14 ans. Il a un peu évolué, je crois qu'il a eu 17 ans à certains moments.
Mais disons,
enfin, prendre 3 ans en 50 ans...
Oui, c'est une réussite. Hein,
c'est une belle réussite. Ah, oui. Alors vous imaginez Tintin vieillissant, comme vieillit tout le monde. C'est d'ailleurs Tintin aujourd'hui, 50 plus 14, 64 ans.
Non, c'est pas possible.
C'est pas possible, pourquoi ?
Pas possible.
Alors,
non,
qui serait-il ? Mais si, vous pourriez quand même.
Non, ça ne m'intéresse pas.
Alors, manque d'imagination.
Non, mais je ne voulais pas. Je voulais conserver. C'est très difficile d'histoire en histoire. C'est le même personnage qui continue. Si je le fais vieillir, évidemment, il va avoir d'autres genres d'aventures qui ne vont plus être du tout intéressantes, je crois. Il va d'abord se marier, qui est une aventure pour lui, mais pas pour les autres.
Ça n'est pas valable, le mariage, par vous.
Pas pour le Tintin, en tout cas.
On se réveillera. un matin plus clair sous un soleil plus chaud. Pour une vie nouvelle, on se réveillera, on se réveillera, et nos yeux s'ouvriront.
Un autre jour est possible, par Toufik Hakem, tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel.
Bonjour Jost Swart.
Bonjour.
Alors c'est vous qui avez inventé cette formule, la ligne claire, vous avez même théorisé la ligne claire à partir de l'œuvre d'Hergé. On verra que c'est beaucoup plus pour secouer d'ailleurs l'œuvre d'Hergé, parce que vous avez repris ce style, ce trait très clair, cette manière qu'avait Hergé de raconter des histoires en bande dessinée, mais pour raconter d'autres histoires avec un autre univers et avec une culture beaucoup plus trash. Mais tout d'abord, comment est venue cette idée de la ligne claire?
Oui, enfin, c'est pas tout à fait une théorie, mais c'était nécessaire parce que dans les années 1975, j'étais dans une équipe qui organisait une exposition autour Tintin à Rotterdam. Et du moment où on parlait du catalogue, moi j'ai proposé de ne pas faire un seul catalogue, mais diviser les catalogues en chapitres, et chaque chapitre avec sa propre couverture, pour que on faisait une série des livres comme Hergé a fait dans sa carrière, donc les séries de Tintin, les séries de Joe et Zette, de Quick et Flip, etc. Donc j'ai pensé de faire un catalogue en des séries de petits livres. Et pour le chapitre avec les racines et les ancêtres d'Hergé, j'ai pensé pourquoi pas donner un nom, un nom que les gens vont associer avec l'œuvre d'Hergé. On a le Lotus bleu, l'oreille cassée, donc j'y pense la ligne claire. Et c'est pour ça, c'est la première fois que la ligne claire était parue.
Et ça n'a donc rien à voir avec le trait d'Hergé, avec sa manière aussi épurée de raconter une histoire?
Oui, bien sûr, parce que dans cette chapitre, dans cette petite catalogue, on avait des dessinateurs qui a travaillé dans le même style, comme l'Américain George McManus, ou bien le Français Alain Saint-Augan. Aussi, on avait les dessinateurs qui travaillaient pour Hergé dans son studio, mais aussi une jeune génération inspirée par lui. Et une chose commune, c'est toujours qu'il dessine avec une ligne de contour. Si, par exemple, si on regarde bien la réalité, on regarde les ombres, on regarde des volumes, donc la peinture, la photographie est plus proche de la réalité. Mais pour une sorte de langage visuel, la ligne claire est très efficace. On dessine juste les contours et dans la fantaisie des lecteurs vient l'image.
Alors cette période, 1975, cette exposition à Rotterdam, est-ce que pour vous, Jost Swart, c'était le moment où la génération marquée beaucoup plus par la contre-culture, par le dessin underground américain, est-ce que c'est le moment où vous allez réhabiliter un classique qui est Hergé?
Pour moi, c'était juste avant, et ça, c'était la raison de l'organisation, de m'inviter, de participer à organiser cette exposition. Pour moi, c'était important, enfin, quand j'ai commencé à dessiner la bande dessinée, j'étais forcément influencé par l'underground américain. Donc Robert Crumb et ses compatriotes, Gilbert Shelton, ils étaient nos héros. Et on voit que dans leur style, ça semblait plus facilement, pas trop étudié, pas trop fait des croquis, etc. Donc, mes premières bandes dessinées étaient aussi influencées par ce dessinateur. Mais à un certain moment, je me demandais, je suis content avec la liberté. C'est une sorte de liberté littéraire qu'un dessinateur prit. Avant, c'était souvent qu'on pensait que la bande dessinée était pour des enfants. Donc maintenant, les nouvelles générations pensaient avec une très grande liberté. Donc, cette liberté, j'embrasse. Mais il me manque un style qui pousse mon imagination. Et si je me souvenais bien, à cette période, c'était quand même Hergé qui m'a poussé, qui m'a inspiré beaucoup comme enfant. À la main de Tintin, j'ai traversé le monde, j'ai compris les sentiments des personnages. Et j'ai pensé, peut-être il y a une clé dans la manière à dessiner. Donc j'ai essayé de dessiner un peu dans cette manière.
Ce mélange de la ligne claire d'Hergé, qui lui venait d'une école plutôt boy scout, il faut le dire, et les propos de cette contre-culture qui devenait votre objet, Jost Swartz, ce mariage a été facile à trouver ?
Je faisais comme ça, donc c'est pas une grande recherche, j'ai juste combiné les deux choses et je me rendais compte que c'était une contradiction. Mais quand même je l'ai fait et j'ai trouvé que le lecteur qui connaissait les mêmes livres de leur jeunesse comme Tintin, qui était amoureux avec ce genre de livres, qui maintenant dans leur période d'étudiant ont des autres intérêts, trouvaient ça très, très humoristique et très intéressant.
Comment Hergé a vu vos travaux apparaître dans la scène de la bande dessinée? Parce que c'était tout à la fois un hommage et une manière aussi de bousculer un esprit qui commençait à prendre de l'âge, il faut le dire.
Oui, enfin, cette période, j'avais visité Hergé pour cette exposition à Rotterdam. Et j'ai montré mes choses, il était intéressé, mais il était aussi un peu réservé. Mais après quelques temps, Hergé était aussi ouvert à découvrir des autres choses. Il est vraiment, on peut dire que l'histoire contemporaine du XXe siècle, ça on peut lire dans l'œuvre d'Hergé. Quand il est jeune, il a fait ses fascinations de Boy Scout, après les nouveaux politiques dans l'Europe, donc plutôt le droit, le catholicisme qui était très important, après la Deuxième Guerre mondiale, dans laquelle il a continué à publier dans la presse belge, il était pour quelques années, c'était défendu de publier dans les journaux Tintin, mais il était, après le catholicisme, il était intéressé par le bouddhisme, il a découvert les États-Unis, il a découvert son intérêt pour l'art moderne, il a même essayé d'être un peintre lui-même. Donc tout ce qu'on sait de l'histoire du XXe siècle est aussi visible dans la carrière d'Hergé. À un certain moment, un ami à lui, il a demandé à un connaisseur d'art, « Dis-moi, est-ce qu'il y a pour moi un futur dans l'art contemporain ?» Et son ami a dit « Oui, ça peut être, mais jamais tu seras si grand comme auteur de bande dessinée que tu es. » Et c'est pour ça, c'est pas ce qu'il a laissé tomber, mais son ambition est un peu baissée de ce côté-là.
De quoi avez-vous parlé avec Hergé quand vous avez préparé cette exposition 1975 autour de son œuvre Jost Swartz?
Ah, c'était superbe parce qu'on a parlé sur tout ce qu'on aime. On a parlé des auteurs, des autres auteurs, des théories de bande dessinée. C'est aussi l'époque que la bande dessinée n'était plus seulement une petite chose dans les marges des journaux pour des enfants, mais c'est vraiment devenu un neuvième art. Et donc on parlait de beaucoup de choses et pour l'organisation de cette expo, ce qui était pour moi très important, de savoir tous comment on construit une histoire, des pages, des dessins, etc. Et je pouvais expliquer ça dans cette exposition à Rotterdam.
Est-ce que l'album Les Cigares du Pharaon, c'est un album que vous classez parmi les meilleurs des aventures de Tintin?
Je ne sais pas exactement. Enfin, les choses intéressantes, c'est qu'il explique quelque chose d'une culture que moi je ne connaissais pas comme jeune homme en Europe, aux Pays-Bas. Donc c'est toujours intéressant de savoir des nouvelles choses des autres pays, des autres cultures. Et cet album, c'est une sorte de frontière entre l'ancienne Hergé, parce qu'avant, il était plutôt des blagues, des petites histoires, pas vraiment un grand scénario. Et c'est grâce à cette histoire qu'un commentaire venait chez lui. Il ne faut pas faire toujours les bêtises sans étudier une culture. Donc, et après, il a fait connaissance avec une Chinoise, Chang, et il a se documenté assez fort pour le prochain livre, Le Lotus Bleu.
Il vous arrive encore aujourd'hui de relire les aventures de Tintin et Swart?
Pas beaucoup, mais de temps en temps, je prends un très bel livre et chaque fois, je tombe dans l'admiration. Parce que la manière dans laquelle il a fait ses livres, les dialogues, dans une certaine période, des très très belles couleurs, les séquences, comment il tire les lecteurs dans les aventures, c'est unique.
Oui. Mais on dit qu'aujourd'hui, Tintin n'intéresse plus les jeunes, que nous sommes peut-être les derniers fans, lecteurs de Tintin. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je ne crois pas, parce que, des jeunes ont maintenant des téléphones, des ordinateurs. Il y a des jeux, il y a si beaucoup de choses à faire pendant la journée. Donc, de se mettre dans une chaise avec une bande dessinée et de lire de page 1 aux dernières pages, ils ne font pas beaucoup. Mais quand même, le tirage vendu de Tintin, ça reste important. Donc, je ne suis pas inquiète. De l'autre côté, si on sait qu'il y a des auteurs de 19e ou de 18e siècle qu'on lit encore, mais pas dans le grand tirage, mais il reste encore très important pour un domaine culturel.
Interview réalisée avec Yves Stuart à Nérac durant les rencontres. Yves Chaland, lui-même adepte de cette ligne claire que vous avez lancée, inventée, du moins je parle de la formulation. Merci Yves Stuart.
C'est avec plaisir.
Ça va, Milou? Rien de cassé?
Finalement, je crois que je préférais le bateau.
Maintenant, il s'agit de savoir où nous sommes.
La suite du feuilleton.
Probablement, mais à quel endroit?
Tintin, les cigares du pharaon.
Ne t'éloigne pas, Milou.
Ce soir, à 20h30.
Milou, ce chien m'a fait casser la tête.